et merci d'avoir choisi Europe 1 Il est midi. Manifestants hier en fin de journée à Paris dans le 17e autour du tribunal. Les proches d'Adama Traoré identifient le cas du jeune homme à ce qui se passe, Pierre, en ce moment aux États-Unis.
L'affaire Adama Traoré est-elle une affaire George Floyd? 18 interpellations hier, quelques incidents comme des jets de projectiles, un incendie sous le périphérique. Nous irons sur place voir comment ça se passe aujourd'hui. Nous inviterons le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, Yves Lefebvre du syndicat de police SGPFO, et nous ferons le point avec le sociologue spécialiste des discriminations, Jean-François Amadieu.
Et nous irons aussi aux États-Unis, scène de pillage hier à New York. Nous serons évidemment sur place. L'actualité, ce sont vos impôts également. Page spéciale à midi et demi. Tous les conseils d'Europe 1 pour bien remplir votre déclaration. 11 juin maximum selon votre département. Nous serons avec le président de l'Ordre des experts comptables, Laurent Bénoudise.
Dans ce journal également, quand The Lancet critique The Lancet, machine arrière toute sur l'enquête du célèbre journal qui critiquait, souvenez-vous, fortement l'hydroxychloroquine. Quel tourisme en Europe cet été? Les Italiens espèrent bien retrouver les Français sur les plages.
J'espère qu'ils vont venir, tous les Français comme avant, tout doucement, pour venir manger comme ils faisaient d'habitude. S'il n'y a pas de Français, nous pourrons fermer.
Fermée, dit cette Italienne sur les plages italiennes. Les municipales avec un virage à droite pour LREM qui visiblement n'entend pas assez les écologistes. Et une autre forme de littérature, les mémoires de Woody Allen. Aujourd'hui en librairie, la météo, Céline Dacosta, changement de temps avec l'arrivée des orages.
Oui, ils se mettent en place en ce moment sur la majeure partie du pays. Les régions épargnées sont la Normandie, les Hauts-de-France, les départements côtiers de la Vendée jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques et la Corse. On voit ça en détail à la fin de ce journal.
Merci Céline, on vous retrouve juste avant 13h. Météo complète sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
18 interpellations hier soir, Pierre, lors d'une manifestation interdite autour du tribunal de Paris, dans le 17e arrondissement.
Environ 20 000 participants selon la préfecture de police. Des jets de pierre, des tirs de gaz lacrymogène. Manifestation en effet interdite, réalisée à la demande de la famille d'Adama Traoré, ce jeune homme noir de 24 ans mort en 2016 après son interpellation. C'est dans ce même tribunal qu'était dévoilée une nouvelle expertise réalisée à la demande de la famille. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, rendons-nous dans le 17e sur ce même parvis du tribunal. Justin Morin, vous êtes sur place. Quelle est l'atmosphère 12 heures après les émeutes?
Eh bien, les gyrophares orange des techniciens de la mairie ont remplacé les gyrophares bleus de la police. Sous le périphérique, des agents sont en intervention pour réparer la quasi-totalité des feux de signalisation, tous cassés ou à l'arrêt à cause de l'incendie qui s'est produit hier soir lors de la manifestation. Donc c'est la grosse pagaille, tout est bloqué ici. Guilhem habite et travaille dans le quartier.
Ce matin, c'est des bouchons un peu partout avec des feux qui sont pétés. Il y a des poubelles brûlées, il y a tout un tas de choses qui ont été brûlées et qui ont été bougées. Mais ça n'a pas été la furie qu'on a pu connaître l'hiver dernier lors des manifestations des Gilets jaunes.
L'épicerie lui a été épargnée, ce n'est pas le cas de l'hôtel Ibis, juste à côté. Le directeur, un peu dépité, n'a pas souhaité s'exprimer malgré les vitres brisées de sa façade. Idem pour une agence immobilière et une concession de scooters pas très loin. Il reste aussi au sol des débris de vélos et de trottinettes brûlées. C'est le décor dans lequel Karim prend son café en terrasse.
C'est désolant. C'est vrai qu'on peut manifester. Après, les violences comme ça, cassées, ça ne sert à rien. Parce qu'au contraire, ça décrédibilise les victimes et les proches des victimes. Moi, je préfère qu'on soit partie prenante pour une cause, soit des violences policières ou quoi que ce soit, mais par contre, sans faire des violences. Quoi. Parce que ce n'est pas ça qui va régler les choses.
Il faudra également nettoyer les nombreux tags encore inscrits tout autour du tribunal de Paris. Pas de justice, pas de paix, Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, ou je ne peux plus respirer. Des messages connus, les mêmes qu'aux États-Unis.
Justin Morin, merci. Merci en direct du parvis du tribunal de Paris dans le 17e.
Pour vous donner une idée de ce qui s'est passé hier soir, écoutez ce jeune éducateur interpellé par la police. Boubacar dénonce une arrestation similaire à celle qui a coûté la vie à George Floyd aux États-Unis.
Le 13 juin 2019, je me suis fait interpeller par la police de Clichy. Une interpellation extrêmement violente où ils m'ont écrasé au sol. Ils étaient en train de m'étrangler avec leurs genoux, je perdais mon souffle. Ils m'ont écrasé des parties intimes. Je les avais appelés pour signaler une disparition. Il y a une maman qui avait perdu sa fille. Ils m'ont dit que je correspondais à un profil. La violence, ouais, j'y ai goûté. Et quand j'entends dire que les violences policières en France, ça n'existe pas, ou que le racisme dans la police, ça n'existe pas, j'ai juste envie de dire à nos représentants, s'il vous plaît, parce que nous, on le vit, on le subit, on en souffre, on en pâtit. On vous demande juste de nous considérer. Pas mieux que d'autres, mais pas moins bien que d'autres. C'est plus facile de parler des États-Unis que de parler de ce qui se passe en France. Mais malheureusement, ce qui se passe aux États-Unis, nous aussi, on y a le droit ici. La brutalité qu'il y a là-bas, on y a le droit aussi.
Le témoignage de cet éducateur avec Théo Manval. Et je vous le disais précédemment, l'épicentre de cette manifestation est dû au fait que c'est au tribunal de Paris, dans le 17e, qu'a été rendue la contre-expertise sur la mort d'Adama Traoré, faite à la demande de la famille. Et ce document, Guillaume Bier, eh bien, il met en cause les gendarmes.
Oui, ces conclusions sont catégoriques et sans nuance. Pour le professeur de médecine qui signe cette contre-expertise, Adama Traoré est mort à cause du plaquage ventral, sous-entendu exercé par les gendarmes qui l'ont arrêté. Aucune autre cause du décès n'est identifiée, écrit le médecin. Alors c'est la deuxième fois que la famille d'Adama Traoré fait réaliser une contre-expertise qui va à chaque fois dans le même sens, celle défendue par ses proches, et qui va à l'encontre des autres expertises. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 4 ans dans ce dossier, il y a déjà eu 2 autopsies et 4 rapports d'experts désignés par la justice, 11 médecins différents, légistes et spécialistes. Aucun d'entre eux n'a jamais clairement établi qu'Adama Traoré était assurément mort, écrasé sous le poids des gendarmes, comme sa famille en est convaincue. Le seul point sur lequel tous les médecins sont d'accord, y compris ceux désignés par ses proches, c'est que le jeune homme a succombé à une asphyxie. Mais dû à quoi ? D'après la dizaine d'experts, ce serait à cause de multiples raisons médicales, alors que le médecin mandaté par la famille balaye les hypothèses de tous ses confrères.
Merci Guillaume Bier.
Bonjour Geoffroy Boulard. Geoffroy Boulard, bonjour. Vous êtes en direct avec nous sur Europe 1, maire du 17e arrondissement de Paris. Manifestement, vous ne nous entendez pas, on entend le souffle du téléphone, donc on va essayer de vous rappeler. Vous êtes avec nous, Geoffroy Boulard ?
Oui, bonjour, pardonnez-moi.
Bonjour, bonjour, maire du 17e arrondissement de Paris. Vous dénoncez la tenue de cette manifestation parce qu'elle était tout simplement interdite ?
Bah, écoutez, c'est le principe d'une manifestation qui est interdite, c'est qu'elle ne doit pas avoir lieu. Elle a été manifestement interdite à la hâte, puisque c'était le matin même. Je rappelle que braver une interdiction de manifestation interdite, c'est puni par la loi, c'est 6 mois d'emprisonnement, 7 500 € d'amende. Alors là, la justice, elle devra mettre les leaders de cet événement face à leurs responsabilités, indépendamment de la cause qu'ils soutiennent. Et sur ce sujet, je crois que la justice doit passer pour tous. À partir du moment où il y a eu des violences, ça doit passer pour tous. Mais il y a une responsabilité pénale qui doit être engagé par les autorités vis-à-vis des organisateurs.
Vis-à-vis des organisateurs.
On est dans un état de droit.
Et il y a eu, vous dénoncez aussi des manquements du préfet de police et du ministère de l'Intérieur ?
Bah oui, écoutez, le dispositif, à l'évidence, était pas adapté. On s'est concentré sur la défense, et on peut tout à fait le comprendre, du tribunal, physiquement, avec des gendarmes mobiles très présents autour, mais totalement absent ailleurs. Et ailleurs, ce sont des habitations, ce sont des immeubles, ce sont des parcs. Et donc, on a fait le choix, en fait, tout simplement au moment de la dispersion, qui s'est mal passée, hein, vous avez assisté à cela, on a fait le choix de sacrifier une nouvelle fois les quartiers avoisinants.
Sacrifier, le mot est fort, hein, Geoffroy Boulard.
Ben écoutez, moi je suis allé, si vous voulez, de 22h à minuit, dans les rues du 17e arrondissement. Je n'avais plus de commissariat qui répondait. J'avais un cabinet du préfet de police qui était incapable de m'envoyer des effectifs. Et j'avais des pompiers, et dont je veux saluer l'engagement, qui ont été pris à partie, qui ont éteint un certain nombre d'incendies sans protection. C'est tout à fait scandaleux.
On aurait dû faire quoi ? On aurait dû charger, tout simplement ? Mettons un mot là-dessus.
Non, pas du tout. Je pense que on n'aurait jamais dû laisser s'installer sur le parvis et devant le parvis des attroupements de plus de 10 personnes. Parce que, cher monsieur, on vous impose de ne pas être réunis à plus de 10 personnes. Pourquoi, à partir du moment où on avait interdit cette manifestation, on a laissé faire, on a laissé cette manifestation prospérer.
Le contexte, Geoffroy Boulard, le contexte de cette manifestation, le parallèle qui est fait aujourd'hui avec ce qui peut se passer aux États-Unis, vous l'entendez, vous le comprenez ?
Bien sûr. Bien sûr, il y a un contexte international, mais là, à l'évidence, ça a été, il y a une sous-évaluation, sous-estimation du nombre de manifestants. Pourtant, on avait des notes des renseignements généraux. Donc là, il y a eu une faille au niveau du ministère de l'Intérieur, parce qu'on ne peut pas arriver comme ça à interdire une manifestation du matin pour le soir. Je veux dire, là, il y a des sujets...
Vous restez avec nous un instant, Geoffroy Boulard. On va accueillir Yves Lefebvre du syndicat de police SGPFO. Bonjour.
Bonjour.
Quand vous entendez le maire du 17e arrondissement de Paris, vous lui répondez quoi?
Monsieur Boulard, rester faire de la politique n'est pas faire de la police. Voilà. Parce que quand j'entends les propos de Monsieur Boulard, que je respecte, au demeurant, qui est dans sa position d'élu, je ne sais pas d'ailleurs si Monsieur Boulard a été réélu au premier tour ou pas, mais qu'importe, dirais-je. Non, mais entendons-nous bien. Cette manifestation, que voulez-vous que nous puissions faire hier soir? Déjà, quand on me parle d'effectifs, Monsieur Boulard, sauf erreur de ma part, appartient à un parti politique.
Oui.
Qui a fait en sorte qu'on supprime des milliers d'emplois dans la police nationale durant un quinquennat présidentiel.
Non, mais il s'agit pas de ça.
Attendez,
restez poli, monsieur Lefebvre, enfin, moi, je ne vous crie pas dessus. Vous entrez dans une brèche politique, on est en train d'analyser une situation qui s'est passée hier soir. On veut savoir comment organiser, comment
l'idée n'étant pas, l'idée n'est pas de rajouter, pardon, de l'huile sur le feu, d'expliquer calmement ce qui s'est passé et de nous donner votre position.
Nous sommes aujourd'hui
exsangues aujourd'hui en matière d'unité de force mobile. On est exsangues et on n'arrive pas aujourd'hui à récupérer ce qui a été supprimé pendant 5 ans. Ça, c'est un état de fait. Voilà. Ensuite, la problématique hier soir. Vous savez comme moi que durant les épisodes des Gilets jaunes, il y a une loi anti-casseurs prévue qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel et qui ne permet pas, je dirais, d'appréhender, de neutraliser en amont les personnes tendant à vouloir se manifester. Donc on est démunis aujourd'hui sur l'outil juridique pénal pour appréhender ce genre de choses.
Monsieur Lefebvre, hier, il y avait 20 000 personnes réunies sur un parvis. Oui. On est bien d'accord qu'en ce moment, les rassemblements, et M. Boulard l'a rappelé à juste titre, de plus de 10 personnes sont interdits.
Je suis bien d'accord avec vous. Mais comment voulez-vous
qu'on fasse ? Comment est-ce possible ? Je ne sais pas.
Imaginez-vous un seul instant. C'est ça, j'ai tenté de vous apporter la réponse.
Ah non, je n'ai pas de réponse.
Moi, j'ai tenté de vous l'apporter. Si hier au soir, le préfet de police ou le ministre de l'Intérieur ou le directeur de l'ordre public et de la circulation de Paris avait décidé de procéder à des interpellations en amont du rassemblement, on provoquait un niveau supérieur de violence. C'est la problématique, si vous voulez, de la graduation dans la gestion du maintien de l'ordre. Effectivement, cette manifestation n'avait pas lieu, mais vous savez comme moi aussi que certains, dont M. Boulard ne fait pas partie, dont certains politiques ont aussi, et des élus de la République, en l'occurrence deux députés de la France Insoumise, ont appelé à cette manifestation. Dès lors qu'on arrive avec des élus de la République qui appellent à une manifestation interdite, qui plus est interdite, et par l'arrêté du préfet de police hier matin, qui est tardif, et aussi surtout par l'état sanitaire, à la sortie du confinement, on ne peut rien faire d'autre que malheureusement. Et hier soir, mes collègues ont tenté, dans la graduation de la gestion du maintien de l'ordre, certes, c'est toujours affligeant, c'est toujours navrant, c'est toujours coûtant de voir des abribus brûlés, de voir des dégradations, mais ça fait partie de l'appréhension de la graduation de la gestion du maintien de l'ordre pour arriver à éviter la confrontation au choc ou homme à homme.
Geoffroy Boulard, vous avez entendu des explications d'Yves Lefebvre et je rajoute, et je parle sous votre contrôle, Monsieur Lefebvre, qu'il y avait aussi des très très jeunes, il y avait des collégiens qui étaient embarqués dans cette manifestation.
Oui, et on avait des Black Blocs aussi hier soir.
Voilà,
on avait des Black Blocs.
Il y avait de tout dans cette manifestation, bien donc sûr. C'était difficile à contrôler. Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur Boulard?
Écoutez, moi je ne fais pas de politique, vous voyez. Je suis au service des habitants. J'étais hier dans les quartiers, j'ai observé. J'ai des contacts réguliers avec la préfecture de police. Donc, si vous voulez, la préfecture de police avait une expérience, un retour d'expérience positif suite aux Gilets jaunes, on l'aurait su. Sincèrement, on est critique parce qu'on est des élus de la République. On est des défenseurs de la police nationale, Monsieur Lefebvre. Et vous le savez très bien. Le sujet, c'est qu'il faut se dire les choses. Là, il y a eu un problème dans la chaîne de commandement. On a le droit de le dire. On est des élus. Vous savez, pendant les Gilets jaunes, moi, j'ai dénoncé cela. J'ai dénoncé les problématiques de décisions qui ont été prises sans concertation. On s'est retrouvés dans les mêmes situations qu'en décembre 2018.
Vous ne mettez pas en cause la police, Geoffroy Boulard. Vous dites qu'il y a eu un problème dans la manière dont les choses se sont déroulées et dans l'ordre qui a été donné.
Bien sûr. Moi, je vais rencontrer le préfet demain. Je vais lui demander les consignes qui ont été données. Pourquoi on n'a pas appliqué l'arrêté, en tout cas l'arrêté préfectoral, hein, j'ai reçu l'interdiction de manifestation. L'état de droit, c'est ça. Alors vous me dites, on ne peut pas faire, monsieur Lefebvre.
Mais écoutez, mais non,
moi j'ai une... Non, non, mais ça fait des années que j'entends ça aussi. On ne peut pas faire, on ne sait pas faire. Et oui, on sait faire.
Si, on sait faire. Si, on sait faire.
On sait faire.
On sait faire. Voilà. Si vous me permettez, M. Boulin, si je peux me permettre de vous répondre, si vous m'accordez le temps
en
de vous répondre.
En 30 secondes, et après, ça sera la fin de ce débat, messieurs.
Bien sûr.
Mais
non, M. Boulin, on ne peut pas comparer. Je vous rejoins sur l'analyse qui est faite sur la gestion parfois du maintien de l'ordre lors des gilets jaunes. Ça, c'est un fait. J'en reviens aussi au manque de l'outil juridique en la matière. Mais hier, très sincèrement, M. Boulin, pour avoir consulté des experts en matière de gestion du maintien de l'ordre hier soir. Si nous allions en contact pour éviter que les gens se rassemblent sur le parvis hier soir, nous aurions eu des confrontations, je dirais, physiques. Il y a la seule chose, le seul point positif que je retire d'hier soir, c'est le nombre de blessés, somme toute, limité. C'est le point positif. Et vous savez comme moi que si nous avions eu des blessés hier au soir, à constater et à déplorer ce matin, ben on avait encore... on irait encore plus vite vers l'embrasement de ce que je crains des banlieues dans les heures et dans les jours à venir.
Merci messieurs, merci Yves Lefebvre du syndicat de police SGPFO, merci à Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris. J'ajoute qu'une vingtaine de CRS ont été blessés dans cette manifestation.
Il est midi 15. Europe 1.
À suivre, peut-on justement établir un parallèle avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, le pays où la colère monte et ne retombe toujours pas? Nous appellerons pour cela Jean-François Madieu, sociologue spécialiste des discriminations. À tout de suite.
Il est midi 18, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneau et Raphaël Duchemin.
Et nous partons pour les États-Unis, Pierre, hein, où le mouvement continue toujours après la mort de George Floyd.
Dans tout le pays, avec ces scènes de pillage à New York City où le couvre-feu est en partie non respecté. Reportage Xavier Yvon.
Le soleil se couche entre les buildings de Manhattan. Des ouvriers finissent d'installer des panneaux de bois sur les vitrines d'un magasin. Il est bientôt 20h. Trois jeunes filles courent sur la 14e rue. C'est bientôt le couvre-feu, disent-elles. On doit rentrer chez nous. Un peu plus loin, sur Union Square, des irréductibles se rassemblent. Moi, je ne vais nulle part, hurle Oji. Nique le couvre-feu, scandent les manifestants qui se mettent à marcher dans les rues vides de Manhattan. On va rester dehors aussi longtemps que possible, dit un jeune afro-américain, parce qu'on veut montrer à la police que nous voulons vraiment du changement. Au détour d'une rue, on aperçoit l'Empire State Building plongé dans le noir, lumières éteintes en hommage à George Floyd. Tous les magasins que l'on croise sont barricadés, recouverts de panneaux de bois, enfin presque tous. Une vitrine vole en éclats, un groupe de payeurs s'empare de vêtements et même des mannequins sous les huées de la foule. Le cortège tourne en rond dans les rues de Manhattan, survolé par des hélicoptères et suivi par des policiers à matraque qui n'interviennent pas. Finalement, la lassitude l'emporte. Rentrez chez vous, dit un organisateur qui donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, même colère. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Bonjour Jean-François Madieu.
Bonjour.
Sociologue spécialiste des discriminations, la famille d'Adama Traoré et les jeunes qui ont manifesté hier en Paris font un parallèle entre la mort du jeune homme en 2016 et celle de George Floyd il y a quelques jours à Minneapolis. Est-ce qu'ils ont raison ?
Il y a effectivement, comme vous le dites, un essai ou disons des tentatives de faire exactement le parallèle. En fait, les situations ne sont pas exactement comparables. Il faut quand même rappeler que le taux de mort en raison des interventions de la police est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'en France et que d'autre part aux États-Unis, scientifiquement, on a très très bien établi qu'il y avait des comportements racistes lors des arrestations. C'est un élément qui joue effectivement beaucoup et qui explique que le taux de mortalité des Noirs soit deux fois plus important aux États-Unis. En France, il y a effectivement un certain nombre de cas qu'on a du mal à quantifier effectivement, l'approche de la police française est moins raciale que liée au quartier, à la jeunesse, au look jeune, et c'est ce qui a été établi dans les études dont on a disposé, en particulier les études qui ont été faites à la Gare du Nord et à Châtelet. Donc, si vous voulez, il n'y a pas... Alors, ce qui fait qu'importer en France cette vision racialisante est évidemment un petit peu... pose un peu problème, parce que ça n'est qu'une partie de la réalité. Donc, c'est très largement, en France, une problématique, je dirais, de milieu social, de quartier, de look, look jeune, c'est ça qui déclenche beaucoup d'arrestations par la police, qui effectivement pose un problème dans les quartiers, ça c'est certain.
Quand on voit, Jean-François Amadieu, des manifestations comme celle d'hier soir, est-ce qu'on peut redouter qu'il y ait un embrasement, même si le contexte n'est pas le même, et on l'a bien compris, vous l'avez très bien expliqué, est-ce qu'on peut redouter des suites, un effet boule de neige ?
Oui, bien sûr, parce qu'il faut se souvenir que lorsqu'il y avait eu les fameuses émeutes de 2005, à l'époque, déjà, on sait que la communauté noire était particulièrement mobilisée en 2005 dans les quartiers, c'est ce qu'on avait observé. Et donc, on sait qu'à chaque fois, il y a effectivement une capacité, je dirais, de mobilisation. C'est dans les comités Adama Traoré, dans la mobilisation, bien entendu, il y a une communauté qui est très mobilisée. Et c'est tout à fait possible qu'effectivement il y ait qu'on se retrouve dans un scénario du type 2005. Alors évidemment, il y a un contexte particulier, mais on a vu que le contexte finalement post-Covid n'avait pas beaucoup changé la donne. Donc ça, effectivement, c'est vrai que c'est tout à fait possible comme on l'avait connu en 2005.
Il y a un racisme qui existe dans certains états des États-Unis d'Amérique. Oui. Et il y a aussi des interventions policières qu'on appelle des cas isolés. Et quand bien même ils soient isolés ou pas, d'ailleurs, c'est un problème.
Oui, alors la difficulté qu'on a, et c'est ce qui explique aussi ce qui se passe pour Adama Traoré, le problème que nous avons en France, il faut être clair aussi, c'est pas seulement la lenteur de la justice, mais surtout le fait que les parquets, l'inspection générale de la police nationale n'est pas très diligente. On sait que dans l'affaire des Gilets jaunes, tout ce qui s'est passé, il y a eu évidemment énormément de dossiers dans lesquels on ne peut pas dire qu'on ait été très, très rapide, c'est le moins qu'on puisse dire, lorsqu'il y avait des dérapages, un usage abusif de la force ou disproportionné ou illégal. Donc c'est évidemment un problème et ça affaiblit évidemment la position des forces de l'ordre ou de la police qui en France n'est pas de façon systématique, une fois de plus, il faut le rappeler par rapport aux États-Unis, il n'y a pas le même fond de racisme généralisé, ça ce serait pas correct de transposer la même logique en France, mais néanmoins ces comportements peuvent exister et effectivement le problème c'est la lenteur, l'inaction, voire l'impunité dans certains cas. Donc ça c'est effectivement très dommageable et c'est ça qu'il faudrait résoudre. On avait déjà vu une fois de plus que dans l'affaire des Gilets jaunes, vous avez noté d'ailleurs que il y a une certaine solidarité qui peut exister actuellement, mais c'est vrai qu'on a eu exactement le même problème.
Merci.
Donc là, il faudrait éviter évidemment l'impunité.
Merci Jean-François Amadieu, sociologue spécialiste des discriminations. Notez que le pape François a jugé intolérable toute forme de racisme ou d'exclusion en ajoutant que rien ne se gagnait avec des réactions de violence.
Il est midi 24.
Europe 1.
Il est midi 27, la suite de votre journal, c'est avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et revoici Pierre, le dossier de l'hydroxychloroquine, mais cette fois-ci c'est un rebondissement de taille puisque la revue The Lancet émet des réserves sur son étude.
Oui, souvenez-vous, il y a deux semaines, la célèbre revue médicale publiait une étude selon laquelle le traitement à l'hydroxychloroquine de surcroît associé aux Zitromax était sans conséquence sur le Covid, mais en plus pouvait provoquer des effets secondaires, notamment au niveau cardiaque.
Ouais, ce qui a signé l'arrêt de mort de ce traitement, toutes les études et les essais cliniques ont été stoppés. Seul le professeur Raoult à Marseille persiste et signe.
Et Mathieu Bock, voilà maintenant que ce journal se contredit lui-même.
Oui, dans cette mise en garde très officielle qui bien souvent précède un retrait pur et simple de l'article dans ce genre de cas, la revue explique que d'importantes questions scientifiques ont été soulevées concernant les données rapportées. En clair, elle n'est plus tout à fait certaine de la rigueur et parfois même de la véracité de certains chiffres. Cette étude avait été menée par une petite société américaine se vantant d'avoir eu accès à de très nombreuses données à travers le monde. Mais très rapidement, des chercheurs de plusieurs pays se sont interrogés. En France, Didier Raoult, le principal défenseur de l'hydroxychloroquine, avait immédiatement qualifié cette étude de foireuse et hier il a remis ça en désignant ses auteurs comme étant des pieds nickelés. Pourtant, cette étude avait été prise très au sérieux, elle avait été le coup de grâce pour l'hydroxychloroquine, l'OMS avait suspendu les essais cliniques et Olivier Véran, le ministre de la Santé, suivant l'avis du Haut Conseil de Santé Publique, avait interdit très rapidement l'utilisation de la molécule en France.
Mathieu Bock.
Il est midi 28.
Europe 1.
Restez avec nous, on va parler déclaration de revenus parce que c'est une journée spéciale aujourd'hui sur Europe 1. A tout de suite.
Il est midi 31, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
On on connaît les conséquences du Covid, mais on en découvre de nouvelles chaque jour. On vous en parlait déjà il y a quelques temps, Pierre. Tous les patients, les malades chroniques qui, pendant le confinement, cachaient, enfouissaient leurs symptômes de peur d'aller à l'hôpital.
Oui, et bien il y a pour tout cela des conséquences graves, des retards de diagnostic et on redoute par exemple une surmortalité chez les malades du cancer, Victor Delande.
Oui, c'est la peur du virus qui a freiné de très nombreux patients à venir lever un doute sur un symptôme apparu récemment. Le résultat, c'est une baisse des consultations dans tous les centres de cancer, mais aussi dans les hôpitaux. Juste un chiffre hein, pour bien illustrer ce phénomène, le nombre de coloscopies pratiquées pendant le confinement pour détecter le cancer du côlon a chuté de 80%. Et comme l'explique Jean-Yves Blé, professeur de cancérologie et président de la Fédération Unicancer, ces retards de diagnostic vont avoir des conséquences.
Le retard diagnostique et le retard de prise en charge thérapeutique est en général, pour la quasi-totalité des cancers, associé à une augmentation du risque de rechute et de décès liés au cancer qui est mesuré et qui a été calculé dans le passé. Un excès de décès liés strictement au cancer se situe entre 6 000 et 9 000 décès supplémentaires liés au cancer pourraient être attendus.
Alors pour l'instant, ce ne sont que des estimations, mais les chiffres sont en cours de collecte dans tous les centres de cancer. Et dans les prochaines semaines, on pourra mesurer avec plus de précision ces risques de surmortalité liés au cancer. Et ce qui inquiète encore davantage les cancérologues, c'est que les nouveaux patients ne se bousculent toujours pas pour revenir. Les rendez-vous reprennent, mais trop timidement. Le mot d'ordre des cancérologues est donc très simple. Venez consulter. Si vous avez le moindre symptôme, le moindre doute, surtout n'attendez pas et prenez rendez-vous avec votre médecin traitant ou avec un spécialiste.
Merci Victor Delande.
Dernière ligne droite, Pierre, pour votre déclaration de revenus selon le département dans lequel vous habitez. C'est ces jours-ci hein, que vous devez impérativement la remplir sur Internet.
Oui, j'exclus les déclarations papier qui représentent aujourd'hui une infime minorité. Le 4 juin, c'est-à-dire demain, pour les départements dont le numéro est entre 1 et 19, ainsi que les non-résidents en France. Le 8 juin, pour les départements de 20 à 54, dont les deux Corses. Et le 11 juin, pour les départements à partir du numéro 55, la Meuse.
Bonjour Laurent Bénoudiz.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes président de l'Ordre des experts comptables. D'abord, peut-être rappeler que tout retard est pénalisé.
Oui, alors heureusement, aujourd'hui, on est dans une période, enfin heureusement, je ne sais pas si il faut dire heureusement, on est dans une période un peu particulière et si vous avez du retard, ça sera traité évidemment différemment des autres années. On a pu avoir des difficultés pour récupérer les documents pour faire sa déclaration d'impôt. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous avez des revenus professionnels, par exemple, vous êtes artisan, commerçant, professeur libéral, vous êtes dirigeant d'entreprise, ou vous avez des revenus fonciers, le délai est reporté jusqu'au 30 juin dès lors que vous faites votre déclaration sur Internet.
Et il y a toujours le fameux « oups hein, », c'est ça? Parce que quand on a fait une erreur,
voilà. On a la possibilité
de corriger.
Exactement. Spontanément, vous pouvez corriger à tout moment. Vous faites votre déclaration, donc jusqu'au 30 juin. Si vous vous apercevez au mois de septembre que vous avez oublié un élément, vous pouvez spontanément régulariser. Il n'y aura vraiment aucune pénalité. Et si c'est l'administration qui s'en aperçoit elle-même, et que c'est la première fois que ça vous arrive, il n'y aura pas non plus de pénalité.
Alors, la déclaration est pré-remplie. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est correct, hein?
On espère que c'est correct. Normalement, si tout le monde a bien fait son travail, ça devrait être le cas. Il faut quand même vérifier, jeter un œil. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas pré-remplies. Si vous avez fait des dons, par exemple, si vous avez donné pour Notre-Dame, eh bien, ça n'apparaîtra pas. L'information n'est pas connue par l'administration fiscale. Donc, il y a quand même comme ça deux, trois trucs qu'il faut aller vérifier pour être certain que ça soit complet.
Oui, par exemple, s'il y a l'arrivée d'un bébé.
Oui, bien sûr. Tout changement de régime au niveau du foyer va devoir être déclaré à l'administration fiscale. Ça peut être aussi bien un mariage qu'un divorce, l'arrivée d'un enfant, le fait que votre enfant soit devenu majeur, est-ce que vous souhaitez le rattacher ou pas, bah, tout ça, il faut le dire à l'administration. C'est des choix que vous avez et qui ne sont pas connus au moment où vous faites votre déclaration.
Alors, à part ce que vous avez précisé concernant les professionnels, ce délai jusqu'au 30 juin, est-ce que le Covid a changé des choses par rapport à la déclaration?
Alors, il n'y a pas d'impact sur la déclaration. Vous savez qu'on déclare là les revenus de l'année 2019. Donc, évidemment, il n'y a pas d'impact Covid sur la déclaration.
C'est la seule chose. C'est ce qu'il faut rappeler. Hein, parce que les gens, parfois, se disent, mais attendez, mais c'est 2019, mais en même temps, il y a le prélèvement à la source. Donc, il y a une petite confusion là-dessus.
En fait, on déclare bien les revenus de 2019, mais la spécificité de cette année, c'est que comment vous allez connecter sur votre site et regarder votre déclaration d'impôt sur le revenu, elle mentionne à la fois le montant du revenu, mais également le montant des impôts qui ont déjà été payés, puisqu'ils ont été prélevés effectivement à la source. Et donc, il faut à la fois vérifier que le montant de votre rémunération est la bonne, mais également checker le fait que les impôts qui ont été précomptés sont les bons impôts. Et donc, normalement, quand vous faites votre déclaration, si votre revenu n'a pas évolué et que le calcul a été bien fait au niveau du prélèvement à la source, eh bien, le solde, zéro. Il n'y aura pas d'ajustement. Si vous avez un ajustement, il sera à régler à partir de septembre. Et si ça dépasse 300 euros, vous aurez 4 prélèvements septembre, octobre, novembre, décembre.
Alors on a,
voilà comment ça se passe.
On a le fameux taux. Je parle en tout cas pour les personnes qui sont, par exemple, des indépendants et qui ont vu pendant cette période de confinement le chiffre d'affaires à zéro pendant deux mois. Est-ce que vous les encouragez à moduler le fameux taux?
Ah oui, bien sûr. En fait, alors pour les personnes qui sont indépendantes, c'est pas un taux, c'est un prélèvement qui est fait sur le compte en banque. C'est-à-dire qu'en fait, on reste sur un système qui ressemble un peu à celui qu'on avait avant. À la différence essentielle, c'est que le montant du prélèvement correspond à l'impôt de l'année. D'accord. Donc, si par exemple au mois de mai, vous étiez fermé et vous n'avez pas pris de salaire, évidemment, ça n'a pas de sens de payer des impôts. Vous êtes certain qu'à la fin de l'année, vous aurez à payer moins d'impôts parce qu'il y a eu moins de revenus que les années antérieures. Et dans ces cas-là, il est tout à fait possible de se connecter sur le site impots.gouv.fr, de rentrer dans son espace personnel et de moduler, voire de supprimer ses acomptes mensuels.
Oui, parce donc, que vous dites à la fin de l'année, mais la situation tendue, elle est en ce moment pour ces personnes-là.
Alors, en fait, en ce moment, vous êtes en train de faire votre déclaration d'impôt 2019 qui va vous permettre à l'administration et à vous-même de régulariser les ajustements éventuels. Mais là, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de payer tous les mois, c'est les impôts de l'année 2020. Et donc, si vous voulez les moduler, c'est tout à fait possible et il faut le faire. Il faut suspendre les paiements et vous avez la possibilité de décaler un trimestre ou trois mensualités sur l'année sans aucune pénalité. Si par exemple, vous avez une inquiétude sur vos revenus, vous dites, bah, par exemple, avril, mai, juin, je ne paye pas et je paierai peut-être sur octobre, novembre, décembre. Sauf si vous estimez que l'impôt sera plus faible et dans ces cas-là, vous avez besoin de ne pas payer.
Et si on oublie, par exemple, de le faire, ou qu'on ne prête pas attention, le Trésor public va nous rendre de l'argent à la fin de l'année ?
Oui, bien sûr. C'est au moment où vous allez faire votre déclaration d'impôt, où là, effectivement, en mai 2021, si vous n'avez pas modulé vos acomptes, eh bien, le montant des acomptes apparaîtra sur votre déclaration d'impôt, votre revenu aura baissé, et donc il y aura une restitution, et la restitution interviendra en juillet 2021. Alors maintenant, il est préférable de moduler dès maintenant plutôt que d'attendre un an avant de toucher ce remboursement.
Laurent Benoudiz, est-ce que dans l'inconscient collectif, le prélèvement à la source, ça y est, c'est acté, on y arrive ou il y a encore vraiment beaucoup, 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 beaucoup de questions?
Ah oui, c'était, une affaire incroyable parce que pendant très longtemps, tout le monde s'est dit ça ne marchera pas, ça ne passera pas, ça va être trop compliqué, il va y avoir des bugs de partout. Le truc s'est mis en place, ça a été une promenade. Et aujourd'hui, tout le monde est content du système et personne n'a envie de revenir en arrière. Le fait de pouvoir moduler ses impôts en temps réel par rapport à son revenu, c'est une vraie souplesse. Et le Covid en est la démonstration. C'est-à-dire que tous les artisans, les commerçants, les indépendants qui voient leur revenu baisser, baissent immédiatement leurs impôts. On n'aurait pas été dans ce système du prélèvement à la source et de la contemporalité de l'impôt par rapport au revenu. Eh bien, on aurait été dans une situation beaucoup plus compliquée parce que les impôts qui auraient été payés en temps normal auraient été ceux de l'année d'avant. L'année d'avant, c'est une bonne année. Donc, vous voyez, donc vous vous retrouvez avec là, vous avez
eu. Il y aurait eu un énorme décalage.
Exactement. Merci. Là, vous avez un ajustement automatique.
Merci beaucoup, Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts comptables. Merci d'avoir été en direct dans Europe Midi. Vous continuez à poser vos questions au 3921, dossier spécial impôt ce soir, dans le 18-20 de Nathalie Lévy.
Il est midi 40. Midi 43, la suite de votre journal, c'est avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et avec Pierre, des concerts de klaxons hein, ce matin du côté de la frontière franco-italienne.
Oui, du côté de Vintimille et du poste frontière de Menton, apparemment tout n'était pas rouvert côté français, d'où ces embouteillages constatés de potrons minés. Mais en attendant, les plages sont rouvertes des deux côtés et les Italiens attendent bien les touristes, notamment les Français. Reportage de Jean-Sébastien Soldaini.
Susanna a beau tenir sa plage au carré depuis deux semaines, les transats restent désespérément vides, les clients italiens sont rares, alors c'est entre angoisse et impatience qu'elle attend ce 3 juin.
J'espère qu'ils vont venir tous les Français comme avant, tout doucement, pour venir manger comme ils faisaient d'habitude. C'est comme chez vous qu'à Menton, il n'y a que des Italiens, ils vivent pour les Italiens, nous on vit pour les Français. S'il n'y a pas de Français, nous pourrons fermer, Perché sennò ti spari.
Sinon, on peut se tirer une balle dans la tête, reprend-elle en italien, geste à l'appui. Comme beaucoup, elle attend aussi la réouverture du marché de Vintimille, le plus populaire de la Riviera. Fabrizio Sorgi représente les commerçants ambulants et avec son collègue, il considère les touristes français comme leur pain sacré.
Venerdì, che per me era uno dei pilastri
della mia economia. Le marché du vendredi était un des piliers de ma vie. 70% de mon revenu vient de ce marché. Pour moi, c'est la vie. Le retour des touristes, c'est une renaissance. Car si on perd la saison, on perd toute une année de travail.
Le marché ne sera rouvert que dans 12 jours, le temps de mettre en place les mesures sanitaires. En attendant, ils veulent accueillir les touristes du mieux qu'ils le peuvent, comme cette restauratrice qui diffuse la Marseillaise dans son établissement. Une façon de briser le silence des lieux ou bien de lancer un appel à la rescousse. Vintimille, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et l'Allemagne annonce officiellement la levée sur ses mises en garde contre les voyages touristiques en Europe dès le 15 juin.
On a évoqué, Pierre, ce sujet il y a plusieurs semaines maintenant, les restaurateurs qui mettent en cause leur assurance dans la responsabilité face au Covid-19.
Oui, AXA se retrouve devant le tribunal de commerce de Lyon pour refus d'indemnisation d'un restaurant pour sa perte d'exploitation suite à une épidémie. Force est de constater que l'assureur rechigne, Jean-Luc Boujon.
Absolument, AXA ne veut pas payer les 17 000 euros de manque à gagner de ce restaurant du Beaujolais durant les 2 mois et demi qu'a duré le confinement. Ce matin, à la barre, l'avocat de la compagnie a tenté de démontrer que, certes, la garantie épidémie était bien incluse dans le contrat, mais que cette garantie était limitée par une autre clause stipulant que cette épidémie ne devait concerner que le restaurant assuré et que si un autre établissement sur le même territoire était touché lui aussi, eh bien cette garantie ne s'appliquait plus. Argument fallacieux, selon maître Jean-Jacques Rinck, l'avocat des restaurateurs.
Vous garantissez l'épidémie, vous devez payer. Ne cherchez pas à vous dérober par une clause d'exclusion qui est une clause abusive et non écrite, parce que inapplicable. C'est presque une escroquerie, parce que quand vous vendez quelque chose à quelqu'un qui paye quelque chose, en sachant que jamais vous le paierez, eh ben, c'est une escroquerie au sens pénal. Bon, on n'en est pas là, mais on peut considérer qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses de par un professionnel de l'assurance.
Voilà, en tout cas, cela met le restaurant fermé depuis le 14 mars dans une situation très délicate, assure Valérie Nassi, la patronne du Bacchus.
On va devoir tenir, on ne sait pas combien de temps, en attendant que la clientèle revienne. Donc un été à blanc, non, on ne tiendra pas. Mon mari, par exemple, n'a pas eu de salaire depuis 3 mois maintenant. Hein.
Voilà, alors le tribunal de commerce donnera sa réponse dans une semaine, une décision qui sera scrutée, puisqu'une cinquantaine de dossiers du même type, avec des restaurateurs, des pâtissiers, des boulangers, assurés sur le même mode chez AXA, sont en attente de savoir ce qui va être décidé par la justice.
Merci Jean-Luc Boujon.
La politique avec l'appel de Cédric Villani-Pierre. C'était ce matin sur Europe 1.
Et vous allez l'entendre, il appelle instamment Emmanuel Macron à prendre un virage sur l'écologie.
Ce que je souhaite, c'est que le président soit prêt à entendre le besoin d'un virage vers davantage d'écologie, davantage de solidarité. Et c'est bien le sens du groupe parlementaire que nous avons créé à l'Assemblée nationale. Un groupe qui n'est ni dans la majorité ni dans l'opposition. Un groupe indépendant, à Paris comme à l'Assemblée nationale, indépendant. Et fier et certain de mes valeurs. Ce groupe s'appelle Écologie, Démocratie, Solidarité. Et c'est bien le sens de ce que je veux porter. Et chaque fois que le gouvernement ira dans la bonne direction, vers davantage d'écologie, davantage de solidarité et davantage de démocratie, nous le soutiendrons. Et c'est un engagement qui se fait non pas pour ou contre quelqu'un, mais au service des valeurs, au service des citoyens.
Cédric Villani avec Sonia Mabrouk, sauf que Aurélie Herbemont, pour l'instant, les alliances de La République En Marche se font plutôt vers la droite.
Ah, c'est vrai que le « et en même temps » et de droite et de gauche est plutôt discret pendant ces municipales. Dans plusieurs villes, LREM et LR se font la courte échelle pour contrer des listes de gauche. Clermont-Ferrand, 5e arrondissement de Paris, Aurillac, Strasbourg, avec cet accord sur le fil hier soir, dans une ville qui semblait promise aux écologistes. Accord aussi à Bordeaux contre les Verts, même chose à Tours. Mais il n'y a pas de front anti-écolo, assure-t-on chez En Marche. En témoigne ce cri du cœur d'un ministre. Souvent, ce sont eux qui ne veulent pas s'allier avec nous. Globalement, les tentatives d'approche avec les équipes de gauche ont été infructueuses et ces rapprochements avec la droite qui s'ajoutent à ceux du premier tour. Rappelons qu'à Toulouse, par exemple, le sortant Jean-Luc Moudenc a la double investiture depuis le début. Eh bien, ces rapprochements ne plaisent pas à tout le monde en interne. Des marcheurs déplorent des accords de boutiquiers, loin des valeurs. Des élus de droite trouvent aussi que ça commence à faire beaucoup d'accords locaux. Mais que voulez-vous ? LR veut gagner un maximum de villes et la Macronie avoir un maximum de conseillers municipaux. après un premier tour plutôt mauvais.
Merci Aurélie Herbemont. Notez qu'un accord à l'amiable a été trouvé entre le Rassemblement national et l'entreprise russe qui poursuivait le parti de Marine Le Pen pour le non-remboursement d'un prêt contracté en 2014. Accord en justice à Moscou. Renault, de son côté, annonce la mise en place du PGE de 5 milliards d'euros, finalement par un pool de 5 banques en France. Et notez aussi que Pierre Moscovici est officiellement le nouveau président de la Cour des comptes.
Il est midi 49.
Europe 1.
On ouvre dans un instant, Pierre, le livre de Woody Allen, une transition toute trouvée pour parler juste après cinéma et Cannes. A tout de suite. Il est midi 52, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Et c'est un livre choc, il paraît aujourd'hui, Pierre, en librairie, Les Mémoires de Woody Allen aux éditions Stock.
Oui, choc eu égard à la plainte contre lui pour agression sexuelle. Nicolas Carreau, on en oublie souvent que Woody Allen est aussi un écrivain, mais en lisant A Propos of Nothing, je ne me souviens plus du titre en français, on retrouve un talent d'écriture sans pareil.
En français, c'est « Soit dit en passant ».
Voilà.
Et ça commence à la Woody Allen. Le livre est dédié à sa compagne, Sunyi. À Sunyi, la meilleure d'entre toutes, elle me mangeait dans la main jusqu'au jour où j'ai vu qu'il me manquait un bras. Ensuite, il repart du début, son enfance, il vit à Brooklyn, et un test de QI l'envoie dans une classe pour surdouer, mais écrit-il, je détestais toutes les institutions scolaires, on s'en serait douté. Il lit assidûment des bandes dessinées, les aventures de Spider-Man, Batman. Mes amis, écrit-il encore, vous êtes en train de lire l'autobiographie d'un misanthrope illettré et fan de gangsters en prime, un solitaire sans culture. Alors bon, il se met quand même à s'intéresser aux classiques, à la musique et à la philosophie à la fin du lycée. Quand il remarque que les filles, elles, n'y sont pas insensibles, il évoque ses années théâtre et jazz, ses films, beaucoup bien sûr aussi. Il ne fait pas l'impasse effectivement sur les accusations d'agression sexuelle dont il a fait l'objet pour s'en défendre sur une centaine de pages. C'est un livre et un univers étrangement familier qui ressemble à ses films, incroyablement bien écrit et drôle, avec cet humour pince sans rire qui le caractérise. On l'oublie souvent, c'est vrai Pierre, mais Woody Allen n'est pas seulement un cinéaste qui a marqué son temps, c'est aussi un grand écrivain.
Un grand écrivain, soit dit en passant, aux éditions Stock. Merci Nicolas Carreau.
C'est ce soir, Pierre, que sera dévoilée la sélection du Festival de Cannes 2020.
Un festival qui aurait dû se dérouler du 12 au 23 mai sur la Croisette, qui a été annulé en raison du Covid-19. Thierry Frémaux, le délégué général, et le président Pierre Lescure dévoileront quand même ce soir la sélection en direct en clair sur Canal à 18h. Et les films sélectionnés auront droit à un label, le label Cannes 2020. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Mathieu Charrier ?
Il n'y aura pas de palme d'or, aucun palmarès cannois cette année. Le jury, qui devait être présidé par Spike Lee, n'ayant évidemment pas pu visionner les films. Vous ne verrez donc pas s'afficher ses logos, palme d'or, prix du jury, prix du scénario, par exemple, sur certaines affiches de films qui sortiront dans les prochains mois. Mais Thierry Frémaux, délégué général du festival, le martèle depuis le début de la crise du Covid-19. Il veut faire vivre les films qui devaient être présentés sur la Croisette d'une manière ou d'une autre. D'où l'idée de ce label, Cannes 2020, qui pourra s'afficher sur les affiches des films qui auraient dû concourir, sous la forme d'un logo par exemple. Ça a un double effet. D'abord, inciter les directeurs de cinéma à programmer ces films à la qualité certifiée par le comité de sélection cannois, et puis encourager ensuite les spectateurs à se déplacer dans les salles. La dernière palme d'or logotée, donc Cannes 2019, Parasite, avait par exemple attiré près de 2 millions de spectateurs en salle. Et puis ces films, Cannes 2020, pourront ensuite être présentés dans d'autres festivals, à Angoulême fin août, à Deauville début septembre, ou dans la foulée à Venise, ce qui permettra de faire vivre le Festival de Cannes avec, en ligne de mire, l'édition 2021.
Merci Mathieu Charrier. Et puis vous le savez, beaucoup de festivals ont dû, par précaution face à l'épidémie du Covid-19, être annulés pour cette année 2020. Eh bien, un festival, non des moindres, le Festival de piano de la Roque d'Anteron, sera maintenu pour le mois d'août. Il devait débuter le 20 juillet. Il se tiendra du 1er au 21 août, avec évidemment le bruit des cigales et ses concerts de piano en plein air. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie.
Merci
Elle
Pierre.
Elle fait bien la cigale.
On se retrouve demain dès
la
midi
fourmi aussi
sur Europe 1. C'est l'heure de la météo.
Oui.
Et ça y est, les orages font leur grand retour, Céline.
Elles aiment la pluie, les cigales, en fait. Parce qu'il va y en avoir.
Vraiment.
Hein. Ouais. Ces orages vont concerner une grande partie du pays. Alors, si vous regardez la carte Météo France, la plupart des départements sont en jaune. Jaune pour surveillance. Là où les ondées vont prendre un caractère orageux assez rapidement, cet après-midi, c'est sur le massif central, la Bourgogne et près des Pyrénées, avec des orages qui pourront être forts. Et localement, des chutes de grêle. Plus localement, ça va gronder aussi du sud-ouest au nord-est. Ça va se calmer dans la soirée. En revanche, le risque d'orage violent avec des cumuls importants, de fortes rafales de vent et de la grêle, ce risque va se généraliser en Occitanie en fin de journée et puis se décaler progressivement vers le sud-est dans la soirée et la nuit prochaine. Voilà pour les départements jaunes qui, suivant l'évolution des orages, pourraient passer en orange. Mais il reste du vert, hein, des régions épargnées par cette agitation, comme la Haute-Normandie, les Hauts-de-France, les départements de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde.
Conséquences pour les températures ?
Elles vont baisser forcément sur les régions concernées par ces passages pluvieux. La moyenne reste tout de même très agréable cet après-midi encore, 23 à 28 degrés, 18 à 23, un petit peu plus frais le long de la Manche, mais demain après-midi, en revanche, les perturbations vont continuer et beaucoup repasseront sous la barre des 20 degrés.
Merci Céline Dacosta. Europe 1.